Alors, on va prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Et après ça, on va lire le psaume qui nous sert de méditation ce mois-ci, en fait. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta parole, qui est toujours une source de bénédiction, une source d'enrichissement et une source de rafraîchissement pour notre âme et pour notre esprit. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir nos pensées et de nous permettre, Seigneur, de saisir ce que tu as préparé pour nous de toute éternité. J'appelle ta bénédiction, ton repos, ta paix sur mon frère et sur ma sœur. Et qu'en toute chose, Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors que le Seigneur bénisse sa parole encore une fois aujourd'hui, je lis pour vous le psaume 91 et je vais relire par la suite le verset 2 qui nous sert de réflexion. Le psaume 91, le verset 1 nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu foleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Le verset 2 qui nous sert de réflexion aujourd'hui. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Trois notions pour nous ce matin. Je dis à l'Éternel, première chose. Deuxième chose, mon refuge et ma forteresse. Troisième point, mon Dieu en qui je me confie. Alors commençons tout de suite par le premier groupe nominal, la première partie de phrase. Je dis à l'Éternel. Dire, c'est le terme hébreu qu'on a déjà vu à quelques reprises. Amar, A-M-A-R, A-M-A-R, je répète A-M-A-R, qui parle de prononcer, qui parle de faire une promesse, qui parle d'avouer, de faire une alliance, de dire avec éclat et d'affirmer avec fierté. Alors, lorsqu'on utilise le terme « amar », c'est une proclamation que nous faisons. Une proclamation, dans ce cas-ci, envers l'Éternel. On parlait tout à l'heure, ou un des sens qu'on disait, c'était de faire une alliance. Et ici, David veut que ce soit clair. Il est en train de dire « je m'adresse directement à l'Éternel » et je dis à l'Éternel, je veux que l'Éternel sache, je veux que l'Éternel entende qu'il est mon refuge et ma forteresse, qu'il est mon Dieu, le Dieu en qui je me confie. Et c'est comme si David tenait à renouveler ses vœux envers l'Éternel. On a souvent cette relation avec Dieu où Dieu manifeste sa grâce envers nous, où Dieu proclame des choses sur notre vie, mais la proclamation se fait de part et d'autre. La proclamation, c'est non seulement Dieu qui proclame qu'à partir de l'instant où je le reçois comme Seigneur et Sauveur, à partir du moment où je comprends qu'il est le sacrifice ultime qui a été donné pour mon salut et que je constate et que je confesse mon état de pécheur en demandant sa grâce. Oui, à ce moment-là, il proclame lui-même qu'il est lié à moi. Mais ici, David nous donne l'exemple de nous aussi faire des proclamations envers l'Éternel. Et dans ce cas-ci, il dit, je veux que tous sachent, mais particulièrement toi, Seigneur, je veux que ce soit clair entre toi et moi que tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Lorsque je suis tombé malade et je vous ai parlé de ce matin-là ou le lendemain matin du diagnostic quand il est tombé, on avait passé une nuit blanche, Daphné et moi, et beaucoup de larmes, des Kleenex, des boîtes de Kleenex qui s'étaient vidées. Et au petit matin, vers 4 ou 5 heures du matin, je me suis assis sur le bord du lit. Daphné était à côté de moi et j'ai fait une prière. Et dans la prière, je disais, Seigneur, je veux que ce soit clair entre toi et moi. C'est correct. J'avais le besoin d'attester devant Dieu et que ce soit clair entre lui et moi, comme quoi ce que je traversais ou ce que j'allais traverser, j'étais d'accord de le traverser et que je lui faisais confiance dans ce moment-là. On s'entend que si David est en train de parler dans ce psaume 91 de la protection, de la sécurité, du réconfort que Dieu apporte, c'est donc parce qu'il a connu des moments d'incertitude, il a connu des moments de trouble, il a connu des moments de tempête, et dans ce temps de tempête, il tient à dire à Dieu comme quoi son seul refuge, sa seule forteresse, le seul Dieu en qui il se confie, c'est l'Éternel. Et je crois que ces choses-là doivent être proclamées dans nos vies, non pas simplement le jour de la tempête, mais ces choses-là doivent être méditées, doivent être réfléchies avant même que la tempête arrive. Parce que si on y réfléchit simplement au moment de la tempête, on va tellement être ballotté par les flots, par les vents, par tout ce qui se passe. Et quand la tempête tombe sur vous, c'est un peu ce verset qui nous parlait de la tempête lorsque Jésus l'a calmée dans la traversée du lac de Tibériade. On nous dit que la tempête est tombée sur le bateau de Jésus et sur les embarcations qui le suivaient, comme une tornade, comme un tourbillon. Et effectivement, lorsque notre vie passe par un temps de tempête et on est effectivement dans un temps de tourbillon où on perd les notions, les repères qu'on avait autrefois. Voilà pourquoi il est important de bâtir ses repères, de bâtir ses réflexes avant même que la tempête n'arrive. Alors, je ne sais pas où tu en es aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont les circonstances que tu traverses. Je comprends que chacun d'entre nous sommes en train de passer par la COVID-19, par tout ce que ça représente d'incertitude, d'inquiétude, de menace. Et je comprends qu'on y passe tous à un degré, à un autre, d'une façon ou d'une autre, avec une réponse propre à chacun d'entre nous. Mais je vous invite, au vu de la tempête qui se dessine, au vu des circonstances qui pourraient s'aggraver, et au vu même d'autres tempêtes qui pourraient survenir dans votre vie, dans les semaines, les mois ou les années à venir, d'avoir ce même réflexe qui a été mien, mais qui était assurément celui de David, de prendre ses avances et de proclamer qui est effectivement votre refuge, qui est effectivement votre forteresse et en qui vous avez décidé de vous confier. Donc, c'est important de prendre ces engagements avec Dieu et dire, Seigneur, maintenant que ça va bien, je veux le proclamer pour que le jour où ça pourrait aller moins bien, j'ai ce premier réflexe de retourner effectivement à mon refuge, ma forteresse et celui en qui je me confie. Donc, toi, Seigneur. Donc, David tient à ce que, en premier point, tient à faire un engagement, à prendre un engagement qui va le lier à Dieu. Et ça doit être le premier point pour nous ce matin. Je dis à l'Éternel, donc prendre ces mêmes engagements et faire ces mêmes proclamations qui nous lient avec le Seigneur. Qu'est-ce que David va dire? Il dit, je dis à l'Éternel, donc à qui il s'adresse? Il s'adresse à l'Éternel, Yehovah. Et on se rappelle ce que Yehovah veut dire, celui qui est et celui qui existe, celui qui est et celui qui existe. Donc David est en train de dire, moi je me tourne vers le seul qui existe, je me tourne vers le seul qui existe réellement, vers le seul qui est effectivement ce qu'il dit être. On se rappelle si Yehovah veut dire celui qui est, ça veut donc dire que les autres ne sont pas. S'il est celui qui existe, ça veut donc dire que les autres n'existent pas. Et on a expliqué ce terme à plusieurs reprises où on donnait la définition ou l'explication comme quoi s'il est celui qu'il dit qu'il est, s'il est effectivement celui qui existe, c'est donc qu'il a tous les attributs propres à la personne qu'il affirme être. Et David dit, je crois effectivement que tu es qui tu dis que tu es. Et ça encore, c'est une proclamation importante. Non seulement dans le premier point, c'est un engagement qui nous liait à Dieu, mais de surcroît à cela, c'est un engagement de croire dans ses promesses, de croire en sa personne, de croire aux attributs qu'il manifeste ou qu'il dit avoir. Le matin, justement, où j'ai fait cette prière importante, il y a maintenant un peu plus de 5 ans, je disais à Dieu, « Hier, je prêchais que tu étais bon. Aujourd'hui, je dis encore, Seigneur, que tu es bon. » Ces choses-là doivent être clarifiées dans ton entendement, doivent être assurées dans ta pensée, dans ton être, au fond même de tes tripes, si vous comprenez l'image que je veux donner. C'est des déclarations et des assurances fermes et inviolables qui doivent être prises, qui doivent être proclamées avant que la tempête n'arrive. Donc, un engagement qui nous lie à Dieu, et deux, un engagement qui nous lie aussi au fait que nous croyons, que nous avons cette certitude qu'il est effectivement celui qu'il dit être. Il va dire, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Mon refuge, le terme makassé, M-A-C-H-A-C-E-H, je répète, C-H-A, je répète une dernière fois parce que je me suis fourvoyé un peu, M-A-C-H-A-C-E-H, mon refuge. Et quand on parle de refuge, on parle d'un abri, on parle d'un asile, on parle d'un hospice, donc quelque part où je peux aller me faire traiter, où je peux me faire soigner. On parle d'une retraite, quelque part où on va se reposer, et une cachette, donc un lieu secret comme on voyait un peu hier. Tu es non seulement mon refuge, mais aussi ma forteresse. Ma forteresse, le terme Matsoud, M-A-T-S-U-W-D, je répète, M-A-T-S-U-W-D, qui nous parle ici d'un lieu sécur, qui nous parle d'un palais, une maison qui est fortifiée, qui nous parle d'un lieu de défense, et qui nous parle aussi d'un grand filet de chasseurs et de pêcheurs. Il y a dans le terme Matsoud, il y a ces deux pensées-là. Il y a la pensée donc du lieu fortifié, mais aussi d'un grand filet de chasseurs ou de pêcheurs duquel on ne peut pas s'extraire. Donc deux notions importantes. Lorsqu'il dit « Tu es mon refuge et ma forteresse », il est donc premièrement en train de dire qu'il établissait sa protection en l'Éternel, qu'il comptait effectivement pour sa protection sur l'Éternel. Et ça, ce n'est pas nécessairement un réflexe naturel. Très régulièrement, lorsque les choses commencent à péricliter dans nos vies, lorsque les choses commencent à aller un peu moins bien, on essaie de se débrouiller à droite et à gauche, on essaie de trouver des moyens de ne pas avoir à dépendre de notre foi et à dépendre absolument de Dieu. On essaie de se trouver des moyens au cas où Dieu n'interviendrait pas. Et malheureusement, ce faisant, on prive notre foi d'entrer en action et on prive à notre foi de croître. Mais il y a des moments où le Seigneur nous amène dans des situations, dans des circonstances où nous n'avons d'autre choix que de dépendre de lui. Lorsque je suis tombé malade, je n'avais d'autre choix que de dépendre de lui. En fait, face au verdict et au diagnostic que les médecins me donnaient, je n'avais aucun autre espoir que lui. Même mon chirurgien, en fait, m'envoyait prendre la chimiothérapie, tout simplement en se disant probablement que ce type-là, je ne le reverrai pas. Ou probablement que je ne le verrai pas souvent. On est rendu pratiquement à 6 ans, on s'en va vers 6 ans plus tard, et je suis encore bien vivant, et je suis pour lui un miracle, et il le dit de ses propres mots. Mais ça, c'est une situation dans laquelle le Seigneur m'a amené à dépendre totalement et uniquement de lui. Certains disent « on se bat contre le cancer ». Je ne sais pas ce que veut dire cette phrase-là. Moi, j'ai juste été subir les traitements et j'ai accepté les traitements qu'on me donnait en faisant confiance à Dieu tout simplement parce que physiquement, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. Émotionnellement, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. Tu essaies juste de passer à travers cette tempête. Mais moi, pour passer à travers cette tempête, j'étais revenu sur le fait que le Seigneur était en contrôle et que le Seigneur était mon unique refuge et mon unique forteresse. Donc, en point 3 ce matin, je dois proclamer qu'il est effectivement ma protection, ma seule, mon unique protection. Et proclamer ne veut pas dire simplement que ça sorte du bout de tes lèvres. C'est ce genre de proclamation qui vient du plus bas, du plus profond de ton être, qui est une vérité certaine, et indélébile du plus profond de ton être. Ce genre de déclaration que tu ne peux pas faire à la légère et qui t'amène effectivement à trouver en Dieu et à mettre en Dieu toute ta confiance concernant ta protection, ta survie et ton lendemain. Donc, 3, j'établis en lui ma protection. Ici, on voit aussi, quand on parlait du filet, en grec, ça va être le terme « rets », R-E-T-S, c'est le matzwood en hébreu, mais en grec c'est retz. Et là, on parle de effectivement cette espèce de filet avec des maillons qui sont bien tissés les uns aux autres, qui sont bien rapetissés pour qu'un poisson ne puisse pas sortir à travers les mailles. Et l'idée ici de David, c'est de dire je vais trouver en Dieu ma forteresse, mais une forteresse dans laquelle les gens ne pourront pas transpercer, mais d'autre part, une forteresse de laquelle je décide de ne pas m'éclipser non plus. Je décide de demeurer sous la protection de Dieu. La protection de Dieu est merveilleuse, elle est ineffable, mais la protection de Dieu, je peux m'en soustraire. Lorsque David fait ses proclamations orales, lorsqu'il fait ses proclamations bien audibles, il est en train de dire à Dieu, il est en train de dire à toute entité spirituelle, qu'elle soit divine ou qu'elle soit maléfique, il est en train de dire à tous ses sujets, puisqu'il est roi, comme quoi lui a décidé de faire de l'Éternel son refuge et sa forteresse, et qu'il ne s'en détournera pas. Je me rappelle d'une expérience en particulier avec le temps de maladie. J'ai reçu le verdict comme quoi c'était un cancer. Et puis le médecin me dit, mais il y a encore des tests à attendre. Donc je n'ai pas averti les gens tout de suite. La semaine suivante, je retourne voir le médecin, puis il me dit, bizarrement, tout a disparu, on n'a plus rien. Ça, c'était un vendredi. Donc, le dimanche qui suit, 2 jours plus tard, je me pointe à l'église et je dis, « Regardez, je devais vous annoncer que j'avais un cancer, mais je vous annonce aujourd'hui que tout a disparu, qu'il n'y a rien. » 2 jours plus tard, je retourne chez le médecin puis il me dit, « Florent, mauvaise nouvelle, effectivement, c'était une fausse piste, le cancer n'a pas disparu, il est effectivement présent. » Alors, je devais revenir une deuxième semaine après avoir dit aux gens que j'avais pas de mauvaises nouvelles à vous donner, en fait, j'ai une merveilleuse nouvelle à vous dire. Et là, je reviens en leur disant, mais vous savez quoi? En fait, je dois vous dire qu'effectivement, le cancer est là et qu'on doit faire des investigations et qu'on doit découvrir d'où il vient. Et j'étais frustré contre moi-même d'avoir amené les gens dans une exaltation élevée en disant hey, le pasteur a été guéri miraculeusement, le cancer a disparu, et revenir par la suite pour leur dire, vous savez quoi, le cancer est encore là. Et pendant longtemps, je m'en suis voulu jusqu'à ce que je comprenne ce que Dieu avait fait dans ma vie avec cette proclamation glorieuse et revenir après pour une proclamation qui est beaucoup moins somptueuse. En fait, Dieu me posait la question, Florent, il dit, j'étais bon lorsque je t'avais guéri. Suis-je encore bon maintenant que tu sais que tu n'es pas guéri? J'étais ta protection et j'étais ton abri et ton refuge, quand tu croyais que je t'avais guéri. Suis-je encore ton refuge? Suis-je encore ton abri? Suis-je encore ta forteresse alors que tu n'es pas guéri? Et je pense que ce travail que Dieu a fait chez moi en tant qu'individu, parce que je crois au transfert spirituel, je crois que cette même maturité et cette même dépendance auprès de Dieu a aussi été versée ou s'est aussi propagée dans la congrégation. Dieu est mon refuge quand ça va bien, mais Dieu est aussi mon refuge quand ça ne va plus bien. Je proclame que Dieu est ma forteresse quand tout va bien et quand je suis en sécurité. Mais quand je suis ballotté par les vents, je reviens à cette proclamation qui dit Dieu est bon. Et une des choses que j'ai assuré la congrégation de faire, c'est de proclamer qu'effectivement Dieu est bon en tout temps, dans le calme comme dans la tempête. Et Dieu s'est servi donc de ce va-et-vient de nouvelles positives, négatives, pour m'amener, moi, à prendre cette décision qu'effectivement, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Que les circonstances soient faciles ou que les circonstances soient adverses autour de moi, tu es l'unique, le seul renfort, rempart, protection, forteresse, lieu élevé pour moi. Alors, je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Mon Dieu, le terme Elohim qu'on a vu à plusieurs reprises, qui parle d'un Dieu qui est un juge, qui est un propriétaire, qui est grand, qui est puissant. En qui je me confie, le terme Batach, 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 qui parle effectivement d'avoir confiance, d'être en sécurité, d'être sans crainte. De ressentir de l'espoir et d'entrevoir l'avenir positivement. Alors il dit ici, je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, je dis à l'Éternel, mon Dieu en qui je me confie. Donc je suis en train de dire à Dieu, je décide de te faire confiance. Il y a des moments où pendant la chimiothérapie, j'étais en train de me demander, mais jusqu'où on va aller. Il y a des moments où la force m'abandonnait, où je vous ai dit des heures et des heures que je passais dans la salle de bain, simplement à vider mon corps de toutes ces larmes, pas parce que j'étais inquiet, mais parce que j'étais fatigué à outrance avec les traitements qui m'étaient donnés et j'avais une espèce de mal-être, de mal de l'âme qui s'emparait de moi à ce moment-là et c'était le seul moyen que j'avais à ma disposition de verser toutes mes larmes devant le Seigneur dans la salle de bain pour que personne ne me voie. Mais je devais revenir malgré tout aux vérités que j'avais proclamées. Tu es mon Dieu en qui je me confie. Et comme j'avais aucun autre espoir, j'avais pas de méthode humaine, j'avais pas d'outils humains, j'avais demandé à tout le monde de me donner pas de prophétie, donner tout ça au pasteur André, c'est lui qui va faire le triage et il verra ce que j'ai besoin d'entendre. Ne venez pas me voir avec une technique de jus, une technique de salade, une technique d'alimentation avec telle vitamine que tu devrais prendre puis telle autre. Je dis, je ne veux rien de tout cela. Je veux m'assurer de simplement entendre la voix de Dieu. Je ne veux pas entendre autre chose que Dieu qui me parle à moi directement. Et voilà pourquoi j'avais orienté tout le monde vers un des collègues, si vous aviez une parole de connaissance, une parole de sagesse ou quoi que ce soit. Et vous savez quoi, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas tout ce que vous êtes allé dire au pasteur André, et c'est très bien. J'avais besoin, moi, de m'assurer et d'assurer Dieu, comme quoi, Seigneur, je dépends de toi uniquement. Donc, je décide de lui faire confiance. Et je peux vous assurer que lorsque on a cette décision ferme, irrémédiable dans notre cœur, c'est là que j'ai expérimenté ce verset qui dit qu'il nous donne une paix qui dépasse l'entendement. J'avais un calme, j'avais une paix, j'avais un sourire qui n'était pas en bon québécois fake, qui n'était pas semblant. J'avais un réel sourire et j'étais réellement bien. À tel point que lorsque j'allais prendre ma chimiothérapie, on me demandait de me promener dans le département pour aller aider et réconforter d'autres patients qui pouvaient passer par des moments un peu difficiles. Pourquoi? Parce qu'il y avait une paix en moi qui était visible non seulement par mes proches et qui se communiquait à mes proches, mais aussi qui se communiquait au personnel soignant, qui se communiquait au personnel médical, qui me demandait jusqu'à un certain point, on comprend pas cette paix, tu nous étonnes, tu nous surprends. Je me rappelle d'une infirmière qui me regarde et qui dit à mon infirmière pivot, mais regarde-le, il est en train de sourire. Et elle était toute surprise que j'étais en train de sourire alors qu'on était en train de me brancher avec tous les solutés que je devais recevoir dans cette journée-là. Mais il y avait cette paix qui venait du fait que je me confiais à Dieu. Et étant en parfaite confiance par rapport à Dieu, je savais que j'étais exactement là où Dieu me voulait. J'avais plus ce doute de me dire, est-ce que je suis vraiment là où je devrais être ou est-ce que je me suis écarté des voies de Dieu? J'avais cette assurance qui ne pouvait pas être froissée ou violée ou contredite, comme quoi j'étais exactement, exactement, exactement là où Dieu me voulait. En plein cœur de la tempête, mais exactement dans la tempête que Dieu voulait que je traverse et pour laquelle il m'avait préparé et pour laquelle il se tenait avec moi et pour laquelle il avait déjà préparé la voie de sortie. Et la voie de sortie, c'était pas la guérison. La voie de sortie, c'était simplement qu'il y a une journée de plus qui arrive demain. Et cette confiance, je la garde encore aujourd'hui. Que Dieu soit intervenu d'une manière ou d'une autre, c'était victorieux. S'il m'avait ramené près de lui, en fait, s'il m'avait amené près de lui dans l'au-delà, ça aurait été aussi victorieux et aussi glorieux parce que je me serais retrouvé dans la présence ineffable de mon Seigneur. Je l'aurais vu face à face. Là, je ne l'ai pas vu face à face, mais je peux vous assurer que je sentais de façon indéniable la riche et la merveilleuse présence de Dieu. Donc, je décidais de lui faire confiance. Seigneur, peu importe le chemin, c'est correct, c'est OK, je te fais confiance. Et lui faire confiance, donc, peu importe quel est le chemin, peu importe quelle est l'âpreté des circonstances. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est le juste juge. Et je sais qu'étant Elohim, il sait considérer ce qui est correct de ce qui est incorrect. Il sait avoir les jugements, il sait avoir la sagesse par rapport à ce que je suis capable ou non de supporter. Et parce qu'il est grand, et parce qu'il est puissant, et parce que sa puissance et sa grandeur, il me la communique pour que je passe à travers. Alors, cette prière et cette confession de David qui dit « Je veux que ce soit clair entre toi et moi, Seigneur. Tu es mon refuge. » Tu es ma forteresse, tu es le Dieu en qui je me confie. Cette même confession, tu dois toi aussi la proclamer pour toi-même. Personne ne peut la faire à ta place et j'aimerais te dire, on ne fait pas semblant de faire cette proclamation. Le jour où la tempête arrive, très très rapidement, tu te rends compte si effectivement cette confession était vraie ou était fausse. Lui faisais-tu confiance? Ou ne lui faisais-tu pas confiance? Et je peux vous assurer que pas un instant, je n'ai même eu le désir de retourner en arrière et de dire à Dieu, Seigneur, je t'avais dit que c'était correct, mais maintenant ça ne l'est plus. Je lui ai fait confiance, je lui fais encore confiance aujourd'hui, et si la tempête devait venir à faire rage encore demain, j'aurais assurément cette même proclamation sur mes lèvres, dans mon cœur, dans toutes mes pensées. Je te dis Seigneur, je te dis Éternel, je te dis Jéhovah, tu es mon refuge, ma forteresse, tu es Elohim en qui je me confie. Alors laissez-moi prier pour vous ce matin. Seigneur, je ne peux pas faire cette proclamation en place et lieu de ta fille et de ton fils. C'est chacun de nous, Seigneur, qui devons faire cette proclamation unique pour nous-mêmes. Je prie, Seigneur, toutefois que ma sœur et que mon frère puissent effectivement arriver à ce point-là, où ils dépendent totalement de toi et ils te font complètement confiance. Si à la base, Seigneur, c'est un moment terrifiant, très souvent qui nous amène à une telle confession, après cette confession, tu es fidèle à toi-même, Seigneur. Tu es fidèle à ta parole et tu te tiens à nos côtés. Et cette présence, Seigneur, te savoir là à nos côtés, à travers la vallée de l'ombre de la mort, c'est inexplicable. D'avoir cette sensation, pour une première fois peut-être dans nos vies, d'être exactement là où tu nous veux, sans aucun doute, sans aucune crainte d'avoir fait erreur. Quelle paix, Seigneur, ça amène dans nos pensées, dans notre âme et dans notre esprit. Alors je prie, Seigneur, que ta fille qui m'écoute ce matin, je prie que ton fils qui m'écoute ce matin, mais peut-être aussi qui pourrait nous écouter plus tard, je prie, Seigneur, qu'ils puissent eux aussi venir à proclamer comme David l'a fait, comme moi-même, Seigneur, je l'ai fait un certain matin de 2014 pour te dire, je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Une proclamation, Seigneur, que j'ai répétée au lendemain d'un verdict grave au printemps 2015. Seigneur, je veux que ce soit clair entre toi et moi. C'est correct. Si tu veux me garder ici-bas comme si tu veux m'amener avec toi, Seigneur, c'est correct. Et je veux que ce soit clair avec toi et moi, Seigneur. Hier, je proclamais que tu es bon, que tu étais bon. Aujourd'hui, je proclame encore que tu es bon. Nous t'avons prié avec cette assurance que tu entends, oui, les prières qui sortent de notre bouche. Tu les soupèses et tu sais, Seigneur, la portée des paroles que nous prononçons. Je prie, Seigneur, qu'elles soient irrémédiables dans nos vies. Je prie, Seigneur, qu'elles ne puissent pas être abandonnées. Je prie, Seigneur, que cette proclamation soit gravée et greffée au plus profond de notre cœur. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, laissez-moi juste saluer quelques personnes qui se sont jointes à nous ce matin. Je remonte un peu. Bonjour à Immacula, bonjour à Camille, bonjour à Chanel et David, bonjour à Lucie, bonjour à Gérard, bonjour à Lydie Stoll Deon ou Dion, bienvenue parmi nous. Bonjour à Maggie, bonjour à Sonny, bonjour à Alain Simard, je crois que c'est une première fois parmi nous, soyez bénis. Bonjour à Diane. Bonjour à Andrés et à Samantha. Et je crois que c'est tout pour ce matin. Donc, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous pourrez aussi, vous aussi, proclamer « Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin, même heure, même poste. Donc, 8h18 pour ceux qui viennent prendre leur salutation. 8h30 pour la bénédiction matinale. On se retrouve demain. D'ici là, bonne journée à tous.